Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. Nous sommes au mois de février 1429, le jour exact n'est pas ou mal connu, peu importe, une jeune femme qui n'a pas 20 ans quitte le bourg de Vaucouleurs en Lorraine pour aller à la rencontre du dauphin, le futur Charles VII. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien évidemment de Jeanne d'Arc. Nous aurions envie de dire, d'un point de vue purement historique, Jeanne d'Arc l'a mal nommée, nous verrons tout à l'heure pourquoi. Partie intégrante du mythe national, Jeanne la Pucelle reste mal connue, malheureusement, par le grand public. Et l'historienne médiéviste Colette Beaune nous offre, aux éditions Perrin, une vision renouvelée du personnage. Un personnage qui se doit d'être replacé dans son époque. Colette Beaune, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes donc historienne, médiéviste, auteur de plusieurs ouvrages, je citerai notamment votre ouvrage très remarqué paru en 1986 chez Gallimard, Naissance de la Nation France. Alors Colette Beaune, les études johanniques, l'historiographie johannique a été marquée ces 15-20 dernières années par quelqu'un, Régine Pernoud, grande historienne, vous lui rendez d'ailleurs hommage dans les premières lignes de votre livre. On pensait tout savoir sur Jeanne. Eh bien non, en fait, il n'en est rien. Comment, Colette Beaune, avez-vous réussi à renouveler ce sujet ?
Régine Pernoud avait écrit des livres dans les années entre les années 60 et les années 80 consacrés à Jeanne d'Arc qui étaient principalement des livres d'histoire événementielle qui avaient pour but de présenter le personnage et de présenter les différentes étapes de sa vie. Ce qui était une étape absolument indispensable puisque l'histoire se construit de génération en génération. Mais une fois, si vous voulez, que les problèmes événementiels sont à peu près résolus et pour Jeanne d'Arc, ils le sont à peu près. La période 1429-31 est très bien connue. Évidemment, la Jeanne d'Arc avant Jeanne l'est beaucoup moins. Eh bien, il faut obligatoirement faire autre chose. Et l'inconvénient du succès de Pernoud, ou son avantage, ça dépend comment on considère les choses, pour son éditeur, c'était sûrement un avantage, c'est que ça a un peu stérilisé la recherche johannique dans la mesure où on s'est dit qu'il n'y avait plus rien à faire et où aussi les études qui ont recommencé plutôt en Allemagne. Jeanne d'Arc étant née tout près de la frontière, il y a beaucoup d'Allemands qui se sont intéressés au phénomène de Jeanne, ou bien dans les pays anglo-saxons où des études très gender ont été faites à propos du personnage de Jeanne. Mais en France, rien de ceci n'a été traduit et finalement, on en est resté à une espèce d'entre-deux. Et de plus, Jeanne d'Arc, comme vous le savez, est très liée chez nous à l'extrême droite, ce qui a bien sûr aussi été une difficulté supplémentaire parce que si vous dites que vous travaillez sur Jeanne d'Arc ou même quand je travaillais sur le sentiment national, on se demande voilà, si c'est vraiment sérieux ou si c'est la politique. Or, pour un historien, quand même, l'impartialité compte. Bien sûr, un historien est un observateur qui a ses propres questions vis-à-vis des textes, mais un historien n'invente pas.
Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans votre livre, et ce que j'ai personnellement beaucoup apprécié, c'est que vous replacez littéralement Jeanne dans son époque. Vous présentez une société, et c'est ce qui manquait précisément.
J'ai essayé de me demander comment était Jeanne, bien sûr, mais aussi comment ses contemporains la voyaient. À la fois ses contemporains, les humbles, les paysans, et puis aussi ses contemporains qui ne l'ont pas bien comprise, les hommes de la cour, et puis surtout les juges et universitaires, tellement différents d'elle, qui étaient des hommes, qui avaient la cinquantaine, qui avaient une culture théologique. Et face à elle, vous aviez une jeune femme qui n'avait pas 20 ans, qui n'avait jamais fréquenter l'école et donc dont les réflexes et les références pouvaient pas être les mêmes. Ils appartiennent à la même culture chrétienne, ça c'est bien entendu, à la même culture aristocratique. Ils ont lu quelque part les mêmes romans de chevalerie. Jeanne d'Arc les a pas lus, mais elle les a entendus lire dans son village, comme on le dit.
Nous y reviendrons tout à l'heure.
Et avec la même culture fondamentalement, il y a cependant une énorme différence de niveau, de culture, de référence. Par exemple, quand les juges parlent de l'église, l'Église. Pour eux, c'est l'Église triomphante, l'Église militante et l'Église universelle. Pour Jeanne, l'Église, c'est un bâtiment de pierre dans lequel on va à la messe le dimanche.
Comment êtes-vous, peut-être une page d'histoire personnelle, comment êtes-vous personnellement arrivé à Jeanne d'Arc ?
Un peu par hasard. Quand j'ai fait ma thèse sur le sentiment national, j'ai lu les procès. Ça m'a semblé un texte extraordinaire parce que c'est la minute du procès, ce sont les mots exacts que Jeanne d'Arc a prononcés, fixés par le notaire. Or, très peu d'hommes et de femmes de l'époque médiévale nous sont connus par leurs mots. Et pour une fois, on entend les mots que quelqu'un a prononcés. Il y a quelque chose de très émouvant dans ces mots. Il y a quelque chose de très émouvant dans quelqu'un qui s'efforce de ne pas avoir peur. Et cette espèce de courage qui surgit des mots, et c'est franchement quelque chose d'étonnant. Et puis, et par ailleurs, pour ma thèse, j'avais rien trouvé, ou très peu de choses, sur le sentiment national. Et je m'étais dit, tiens, c'est peut-être pas un phénomène si politique, c'est peut-être un phénomène plus religieux, peut-être t'as mal cherché. Faudrait y revenir un jour. Voilà. Et puis ensuite, j'ai fait des cours d'histoire des femmes à la fac, pas mal. Et ça a évidemment contribué aussi à m'orienter dans ce secteur. Et puis, je suis née entre Blois et Orléans.
D'accord. Alors, peut-on faire, Colette Beaune, si vous le voulez bien, un point sur les sources ? Vous écrivez « Jeanne d'Arc est probablement la figure de femme la mieux documentée de l'histoire médiévale ».
Oui, dans la mesure où l'on possède deux procès, le procès de condamnation de 1431 et le procès en réhabilitation de 1456, qui est déjà beaucoup, mais aussi tous les actes préparatoires au procès, la minute française, et aussi toutes les consultations faites par le roi auprès de théologiens et de juristes pour savoir comment on pouvait reprendre le procès. Et donc, l'édition Quichera forme déjà en gros 6 ou 7 volumes de 500 ou 600 pages.
L'édition, ce que vous appelez l'édition Quichera, c'est
Quichera,
l'édition
Quichera, dans les années 1851, a édité en latin l'ensemble des pièces connues de son temps sur Jeanne d'Arc. C'était une commande de la Société d'Histoire de France, toute nouvelle, et Quichera a fait très savamment son travail. Et aujourd'hui encore, certaines chroniques de Quichera n'ont pas été republiées. Alors, depuis, Quichera a été traduit pratiquement intégralement, et depuis aussi, quand même, des textes nouveaux sont sortis. Parce que Quichera avait travaillé surtout sur la France, et beaucoup de textes Jeanne d'Arc émanent de l'Empire ou de l'Italie. Et ces textes-là, Quichera les avait pratiquement pas vus, en particulier la chronique Morosini ou les marchands vénitiens de Bruges, d'Avignon, au jour le jour, disent toutes les rumeurs qui courent sur Jeanne d'Arc. C'est le seul moyen de suivre l'opinion, si vous voulez, de gens cultivés, de gens partisans du dauphin, mais de gens qui ne sont pas du tout les chroniqueurs officiels.
Alors l'historien à sa disposition, vous venez de le dire, les procès, les chroniques, bien évidemment, oui. des mémoires. Il y a autre chose qui est vraiment marquant dans votre livre, c'est que votre livre est imprégné de deux textes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui. Était-ce une telle réalité, cet Ancien Testament et ce Nouveau Testament au temps médiévaux ?
L'Ancien et le Nouveau Testament, d'abord, était évidemment une des bases de la culture. On apprenait à lire dans les psaumes, donc la plupart des gens les savaient à peu près par cœur. C'était leur première lecture. Et puis, par ailleurs, c'était la base des sermons qu'ils entendaient le dimanche à la messe. Et enfin et surtout, l'Ancien et le Nouveau Testament servaient de façon différente, suivant ce qu'on voulait dire. Si on voulait parler des guerres et de la royauté, c'était assez simple, on pouvait guère utiliser le Nouveau Testament pour parler des guerres et de la royauté, puisque le Christ dit « mon royaume n'est pas de ce monde » et que les guerres, voilà, il est plutôt pacifiste. Donc, pour parler des guerres et de la royauté, il fallait utiliser les guerres du peuple d'Israël. Il fallait utiliser la prophétesse Déborah qui annonçait la victoire et qui allait sur le champ de bataille avec une épée et qui a été utilisée pour les prophéties annonçant Jeanne de façon très courante. On pouvait utiliser aussi tous les héros du peuple juif à qui Dieu avait donné une épée ou un étendard pour qu'ils fassent des miracles, puisque l'épée et l'étendard de Jeanne étaient aussi en quelque sorte célestes, elle l'a dit et on l'a cru. Et puis enfin, une autre des raisons d'utiliser l'Ancien Testament, c'était qu'on pensait que la France était le nouveau peuple élu. Autrefois, il y avait eu le peuple d'Israël et le peuple de l'Ancienne Alliance. Et puis maintenant, Dieu avait, avec le royaume très chrétien, passer une nouvelle alliance. La France était le nouvel Israël, tout le monde en était persuadé. Donc ce qui était arrivé à Israël avait toujours de la réalité, pouvait toujours servir.
N'est-ce pas un paradoxe d'avoir autant de documents pour un personnage, au fond, dont la vie publique se résumera à moins de 3 ans?
Oui, pour un personnage dont la vie publique est si courte, pour un personnage qui est une femme, les femmes sont toujours beaucoup moins documentées que les hommes, pour un personnage qui est mort à 20 ans, et puis aussi pour un personnage qui était une paysanne, c'est-à-dire qui vivait dans un monde de l'oralité. Et le monde de l'oralité communique plus ou moins bien avec le monde des savants, même si ce village de Noémie connaissait bien l'usage du livre, nous le savons. Le père de Jeanne d'Arc n'était pas n'importe qui, il était doyen ou maire de son village, il avait représenté le village dans des procès, il est nommé dans pas mal d'actes de location de ceci ou de cela. Donc, je veux dire que l'écriture était connue dans le village, on savait à quoi elle servait. Mais l'écriture, elle servait plutôt aux puissants et à l'église, plutôt que dans la vie quotidienne si paysanne. Et les seuls livres qui aient pu exister à Domrémy, c'était les livres du curé, qui avait très sûrement des livres de messe, parce que les synodes du diocèse de Toul, Domrémy dans le diocèse de Toul, obligent à avoir un certain nombre de livres nécessaires pour célébrer la messe. Il n'y avait pas de registre de baptême, il n'y en a eu un qu'à la fin du 15e. Et donc tout ce que nous savons du baptême de Jeanne dépend des interrogatoires, nous n'avons pas d'actes. Et il y avait aussi à Domrémy un roman de chevalerie relatif à l'origine de la famille de Bourlémont qui était seigneur du village et qui racontait comment le seigneur du village autrefois avait rencontré une fée dans la forêt auprès de la fontaine. C'est toujours là qu'on rencontre les fées parce que c'est le lieu où les deux mondes communiquent. Et il en avait eu des enfants et donc les seigneurs du village de Domrémy étaient des fils des fées. Et les fées, croyait-on, apparaissaient toujours sous l'arbre aux fées, à la limite du village. Mmh. Et Jeanne d'Arc, certains l'ont pensé, était plus ou moins une fée ou avait reçu sa mission des fées.
Mmh. Nous reviendrons sur l'arbre. Alors, Jeanne pourrait être elle-même le sujet de plusieurs émissions, bien évidemment. Le cinéaste Jacques Rivette, que vous appréciez, je crois, avait, lui, divisé sa vie de Jeanne en deux parties, l'une intitulée, si mes souvenirs sont bons, les batailles, l'autre, les prisons. Je vous propose, Colette Beaune, de découvrir une Jeanne peut-être moins connue, vous le disiez tout à l'heure, une Jeanne d'avant les batailles, d'avant la fameuse bataille d'Orléans en 1429. Alors commençons par le commencement, il est difficile de connaître l'année exacte de naissance de Jeanne.
Oui, parce que sa date de naissance ne nous est connue qu'à travers ce qu'elle dit de son âge lors du procès de condamnation et ce que ses parents et ses proches disent de son âge lors du procès en nullité. C'est-à-dire que nous reconstituons sa date de naissance et il y a un seul texte, la lettre de Perceval de Boulainvilliers, qui dit qu'elle était née le jour de l'Épiphanie, le jour des rois. Mais c'est pratiquement trop joli et trop symbolique et par reconstitution, c'est donc le 5 janvier 1412. Mais nous n'avons pas de certitude absolue. Néanmoins, c'est vrai à un an ou deux près.
Mmh. Si bien que, en fait, au début de sa mission, quand elle part de Vaucouleurs vers Chinon, elle a quel âge?
Ça doit lui faire 17-18 ans.
Donc, en fait, elle meurt
à moins de 20 ans.
À moins de 20 ans.
Voilà.
À moins de 20 ans. Vous avez une phrase assez extraordinaire. Vous dites « Savoir son âge à cette époque pourrait d'ailleurs être suspect de préoccupations astrologiques malvenues. Les repères chronologiques absolus sont rares en milieu paysan. »
Oui, lorsque l'on compte le temps à Domrémy ou ailleurs, on compte le temps par rapport aux saisons, par rapport au règne du roi, peut-être par rapport au pontificat de l'évêque de Toul, mais on ne compte pas le temps en disant « nous sommes, je ne sais pas, moi le 7 juillet 1428 ». Non, on ne fait pratiquement jamais cela. On fait ça dans des milieux extrêmement aisés et qui pensent le temps comme une continuité qui commence à la naissance du Christ et qui s'oriente vers une fin. Pour un village, le temps est beaucoup plus cyclique, répétitif, et on compte le temps à partir d'événements marquants. D'accord. Il y a un avant et un après.
D'accord. Alors, Dans le film de Luc Besson, on voit une Jeanne d'Arc au début qui est très très jeune. Et il est très difficile véritablement de connaître cette jeunesse. Quelle peut être la jeunesse d'une jeune fille de 10 ans, de 12 ans dans un village à cette époque-là, au début du 15e siècle ?
Jeanne d'Arc est élevée par sa mère, comme toutes les petites filles. Elle apprend ses prières, elle sait le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Credo. À partir de 7 ans, elle va à la messe, elle apprend à donner l'aumône. Elle apprend aussi tout ce qui concerne la maison, puisque les filles sont promises à devenir épouses et mères, et qu'il faut donc qu'elles apprennent à tisser. Jeanne dit qu'elle filait beaucoup mieux que toutes les femmes de Rouen. Elle était assez fière de ses qualités en ce domaine. Par contre, on sait très bien qu'elle n'aimait pas du tout ni les casseroles ni la cuisine. Pour une jeune fille anorexique, le dégoût de la nourriture est assez logique et le fait de ne pas s'intéresser à la cuisine aussi.
Vous dites que Jeanne était anorexique.
Oui, de cela on est à peu près sûr, dans la mesure où les chroniqueurs ont été très frappés par le fait qu'elle ne mangeait, ne buvait presque rien. Et de plus, ils lui font manger et boire des nourritures liées à l'Eucharistie, le pain, le vin, l'eau, éventuellement le poisson.
Vous la présentez, en tous les cas, quand elle a 17 ans, d'une manière très précise. On connaît sa taille, on sait qu'elle a une tache de vin derrière l'oreille.
Oui, tout ceci, on le sait. On connaît sa taille parce que un tailleur chargé de faire un costume à Orléans nous a laissé ses mesures. Donc ça, on sait. On sait qu'elle était brune parce qu'un de ses cheveux a été conservé dans un seau jusqu'après la guerre de 14. Donc ceci, il a été observé plusieurs fois. On sait qu'elle a une tache derrière l'oreille parce que les prophéties nous l'ont dit. Et le fait d'avoir le corps marqué, c'est à la fois un avantage parce que les prophétesses ont le corps marqué, mais un inconvénient parce que les sorcières aussi ont le corps marqué. Donc ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre. Que sait-on d'autre ? Qu'elle est probablement très solide parce qu'elle porte une armure qui pèse quand même 20 ou 30 kilos. Qu'elle n'est probablement ni très jolie, ni très moche, dans la mesure où personne ne nous en parle. Il est très probable qu'elle était celle dont on ne parle pas.
Vous la mettez dans la normalité.
Je pense, mais tous les paysans de Dorémy ont été très soucieux de dire elle était comme les autres.
Elle était comme les autres.
Elle n'était pas plus pieuse que les autres. Elle n'était pas différente des autres filles. Être différent, vous savez, dans une société qui révère le modèle, c'est pas bien.
Un jour dans l'histoire reçoit Colette Beaune, auteur d'une biographie consacrée à Jeanne d'Arc. Nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans un instant.
Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Radio Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Radio Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les.
Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Colette Beaune, auteure d'une biographie consacrée à Jeanne d'Arc, une biographie où Colette Beaune, vous replacez le personnage dans cette société médiévale qu'au fond on connaît très peu ou dont on a une vision qui est un peu une vision héritée à tort du 19e siècle. Alors, revenons sur les origines de Jeanne. Vous évoquiez son père tout à l'heure et elle vit dans un milieu qui est, on dirait, aisé.
Elle vit dans un milieu aisé, nous le savons, parce que son père était le doyen de son village, c'est-à-dire l'équivalent de maire, un officier seigneurial en rapport avec les autorités. Il a loué aussi le château local pour y héberger troupeaux et vivre, probablement, pas tout seul, avec d'autres, certes, mais ça implique quand même un certain niveau social. Sa mère s'appelait Isabelle Romée. C'était très rare qu'une femme possède à la fois un prénom et un nom à cette époque. Et ce prénom veut dire la pèlerine. Donc quelqu'un qui avait personnellement le goût des voyages ou qui avait hérité de ce goût des voyages.
Vous dites que du côté de sa mère, elle avait, il y avait un moine cistercien ainsi qu'un prêtre.
Oui, un moine cistercien ainsi qu'un curé d'un village à une dizaine de kilomètres de Dorémy étaient des parents de Jeanne d'Arc. Donc c'est une famille qui n'est pas entièrement illettrée. C'est une famille où il y a sûrement un certain nombre de lettrés et même de clercs. Et puis, toute façon, même si il n'est pas d'usage d'envoyer les filles à l'école à cette époque-là, parce qu'une fille qui va être mère de famille et qui va tenir une maison, il ne sert pratiquement à rien de lui apprendre à lire et écrire. Autrement dit, les parents de Jeanne d'Arc auraient peut-être été capables de l'envoyer à l'école, mais s'ils avaient le choix, ils auraient envoyé le frère aîné, et sûrement pas elle. Et de plus, en l'espèce, ils n'avaient pas le choix parce que l'école la plus proche était en terre bourguignonne, donc en terre ennemie, et les petits-enfants de Don Rémy et les petits-enfants de Maxet en terre bourguignonne où il y a l'école juste à côté se bagarraient couramment et revenaient avec des plaies et des bosses. Donc pas d'école possible.
Au fond, il y a une légende qui est une légende tenace, c'est celle de la pauvreté de Jeanne. C'est absolument pas le cas.
C'est pas un milieu très riche, si vous voulez. Quand ceux qui en parlent sont des nobles ou des universitaires, ils disent « elle est pauvre », parce qu'on n'est jamais riche ou pauvre que par rapport à quelqu'un. Mais c'est pas dans les gens du village, elle appartient aux milieux les plus aisés. Sa sœur avait épousé aussi le fils d'un maire. Enfin bon, on voit bien qu'on est dans le milieu de ce qu'on appelle les coqs de village, les gens qui sont propriétaires, qui sont laboureurs, c'est-à-dire qui possèdent un train de culture, qui possèdent des animaux, qui ont des contacts à l'extérieur avec les autorités et qui s'intéressent à la vie politique. On sait que le père de Jeanne d'Arc était Armagnac.
Alors, il y a une notion, ou plutôt un contexte que l'on a tendance à oublier quand on étudie Jeanne d'Arc, c'est le contexte géographique. Et vous y consacrez un chapitre entier, vous dites « Jeanne est une fille de la frontière ». Que représente la frontière à cette époque ?
Jeanne est née à la frontière de la Meuse, c'est déjà une première frontière qui sépare le royaume de l'Empire, mais de plus, il y avait un petit ruisseau qui passait devant l'église et qui séparait ce qui était du domaine royal de ce qui était du barrois mouvant. Autrement dit, ce village possédait deux frontières à lui tout seul, une frontière extérieure avec l'Empire et une frontière intérieure entre un fief et le domaine royal. C'était vraiment un condensé de toutes les frontières possibles. La frontière à cette époque, c'est une notion qui est en train de se dégager. Parce que pendant longtemps, les frontières ont été des zones limites pas très claires. Or là, on se trouve dans le cas très précis où la frontière de la Meuse est constituée progressivement par l'imaginaire plus que la réalité en frontière linéaire qui sépare la France de l'Empire et qui, croit-on, l'a séparée depuis Charlemagne, puisque l'on pense que Charlemagne, à tort d'ailleurs, avait installé des bornes d'or dans le fond du lit du fleuve pour marquer à jamais la séparation entre la France et l'Empire. En fait, cette séparation, elle a eu lieu au cours du temps, au fur et à mesure que la royauté française gagnait vers l'Est. Le mariage de Philippe le Bel, par exemple, avec Jeanne de Champagne, a fait arriver la royauté dans la vallée de la Meuse. Jusque-là, la puissance royale dans le coin était plutôt faible. Donc, c'est une frontière. Alors, une frontière, c'est à la fois un lieu que le roi soigne. Il y envoie, il renseigne beaucoup sur son action. Il y met très souvent aussi des exemptions d'impôts. Pour une raison très très simple, quand les gens de la frontière ne sont pas contents, ils vont s'établir de l'autre côté dans l'Empire où il n'existe pas d'impôt d'État. Et donc, sur la frontière, il faut soigner l'opinion et les porte-monnaies des contribuables. Mais en même temps, la frontière, c'est très très loin des centres de pouvoir. Donc, implicitement, on pense que la frontière, c'est un lieu moins bien contrôlé. C'est de la frontière que viennent les dangers, les invasions, par exemple. C'est de la frontière que viennent les sorciers, les magiciens, et c'est de la frontière, enfin, que viennent les prophétesses.
Est-ce que, justement, vous dites que de la frontière vient le danger, est-ce que c'était une notion que l'on avait dans l'imaginaire médiéval, surtout, au fond, chez Jeanne vous dites dans votre livre que la France est en paix, naturellement, avec l'Empire. Était-elle, oui, elle, marquée par la guerre ?
Son enfance a été agitée dans la mesure où cette région de la vallée de la Meuse était disputée non pas du tout entre la France et l'Allemagne ou entre les Français et les Anglais qu'il s'agissait de bouter hors du royaume, mais entre les Armagnacs et les Bourguignons. Le duc de Bourgogne possédait au sud le duché et le comté de Bourgogne et au nord il était en même temps comte de Flandre. Donc il lui fallait contrôler la grande route entre ces deux possessions et cette grande route passait à Don Rémy. Le contrôle de la région était vital pour la puissance France bourguignonne. Résultat, le parti d'Orléans, adversaire, ou d'Armagnac, comme on veut, adversaire décidé des comtes et des ducs de Bourgogne, cherchait à s'imposer dans la région. Louis d'Orléans avait acheté toute une série de fiefs, il avait acheté des alliés, et il menait une politique, une propagande extrêmement active dans la région. Donc on était dans un coin très périphérique, mais qui était au centre des grands conflits de la guerre civile. Pas de la guerre étrangère, mais de la guerre civile, oui.
Alors, il y a une autre dimension dans ce concept de frontière. C'est, vous dites qu'il y a un côté noir et il y a un côté blanc. Le côté blanc, c'est la protection de la frontière. Oui. Et le côté noir, c'est également l'hérésie. Comment en arrive-t-on à dire que la frontière, enfin, de la frontière viennent les hérétiques ?
Eh bien, parce que d'abord, tout le monde est persuadé que le royaume de France est un royaume qui n'a jamais conçu d'hérésie et qui n'en a jamais connu. Avec les cathares, c'est une reconstitution de mémoire quand même assez drôle, mais on le croit. Et puis, au XVe siècle, il est vrai que les hérétiques étaient pour beaucoup des Vaudois, donc des gens qui provenaient des vallées des Alpes, et que c'était là aussi que dans les années 1424-1425 commençaient les grands procès de sorcellerie. D'où l'idée que les frontières mal contrôlées, à la fois par l'Église, parce que les paroisses des Alpes sont beaucoup moins bien contrôlées qu'une paroisse parisienne, c'est certain, et par l'État, parce que tout ça c'est fort loin, étaient des zones qu'on pouvait ressentir comme potentiellement dangereuses.
Peut-on concevoir que Jeanne d'Arc s'intéressa à la politique à ce moment-là? Est-ce qu'elle avait toutes ces notions en tête? Était-ce des sujets dont on parlait lors des rencontres, en se promenant? Je ne sais.
Il est très difficile de savoir ce qu'elle sait exactement de la vie politique, parce que tout ce que nous savons là-dessus dépend du procès de 1431. Et quand en 1431, elle a une expérience politique de 2 ans. Donc, elle peut savoir énormément de choses qu'elle ne savait pas en quittant son village. Il est difficile de sélectionner ce qu'elle savait en quittant son village et ce qu'elle a appris par la suite. Néanmoins, on sait qu'elle a appris l'existence du traité de Troyes. Il faut dire que la ville de Troyes, où le traité entre le duc de Bourgogne et le roi d'Angleterre et Charles VI avait été signé, ce traité qui déshérite Charles VII, la ville de Troyes, c'est la capitale de la Champagne et c'est donc pas bien loin de Don Rémy. Donc, elle connaît le traité, elle connaît l'assassinat du duc d'Orléans par le duc de Bourgogne.
Rappelons que le traité de Troyes, pour nos
1420,
dire, voilà, donnait en quelque sorte les territoires, les terres françaises à l'Angleterre.
À Henri VI, puis à Henri VI, oui. Et donc, elle connaît l'existence du traité de Troyes. Elle n'a sûrement jamais lu le texte du traité de Troyes, si vous voulez. Elle en connaît comme ça l'existence. Alors, comment connaît-elle tout ça? Il y a 2 solutions. Un père particulièrement bien renseigné, mais Jeanne d'Arc, quand elle parle, n'accorde jamais aucun rôle à son père dans sa formation politique. Alors, ne veut-elle pas le dire, ou bien est-ce qu'il n'a eu aucun rôle? Nous ne savons pas trop. Et aussi les sermons. Dans les sermons, le curé annonce, c'est logiquement, toutes les grandes nouvelles politiques, les batailles, les avènements. Et on sait que Don Rémy était fréquenté régulièrement par les franciscains de Neuchâtel. C'est un couvent franciscain extrêmement actif. C'est là qu'il y a eu beaucoup de traductions, en particulier de l'Horloge de Sapiens, enfin de textes importants faits à Neuchâtel. Et de plus, Neuchâtel s'était sacrifié, si je puis dire, pour le roi. Il y avait toutes sortes d'émeutes à Neuchâtel en faveur du roi contre le duc de Lorraine. Les gens de Neuchâtel avaient une aura sur les paysans de Don Rémy à 10 kilomètres de là. Et c'est à Neuchâtel aussi qu'étaient enterrés les seigneurs de Don Rémy. Donc, si vous voulez, le patriotisme visible, voyant des gens de Neuchâtel, était sûrement connu à Don Rémy.
C'est le début d'une conscience nationale. Là, on en vient à votre livre paru aux éditions Gallimard en 1986.
Il est certain que Jeanne d'Arc s'intéresse au roi, qu'elle pense que la France a une histoire commune. Elle est capable de citer Saint-Louis et Charlemagne. Bon, je pense que ces notions historiques, elle est peut-être pas beaucoup plus loin, mais Saint-Louis et Charlemagne, c'est déjà pas mal. Elle pense que la France est le pays élu de Dieu, que jamais Dieu ne laissera tomber la France, et elle pense que la France a joué un rôle directeur dans la chrétienté et dans la future croisade qu'un jour on organisera pour repousser les Turcs. Il y a donc quand même une idée globale de l'existence d'une communauté nationale. Alors bien sûr, cette communauté nationale, elle ne sait pas trop comment l'appeler. Parce que quand elle utilise le mot France, c'est pratiquement pour toujours pour dire l'île de France ou l'endroit où est le roi. C'est ça qui devient la France. Autrement, elle utilise des périphrases, le royaume, toute la France, vous voyez, c'est pas si simple. Elle n'utilise jamais le mot nation, qui de toute façon, à cette époque-là, n'a pas le sens actuel.
Est-ce que, au fond, ce ne sont pas ses voix qui lui ont donné conscience politique ?
Certainement, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, ce n'est pas mon père, ce sont les voix, mais que sont les voix ?
Un jour dans l'histoire reçoit Colette Beaune. Colette Beaune, vous êtes historienne, médiéviste. Vous venez de publier aux éditions Perrin un Jeanne d'Arc qui replace le personnage dans son époque. Alors, est-ce que Jeanne d'Arc était une fille profondément religieuse ? Ce qu'il y a d'étonnant dans votre livre, c'est que vous la placez dans la normalité, c'est-à-dire qu'elle fréquentait les sacrements pas plus que les autres et pas moins que les autres.
C'est une société profondément religieuse de toute façon. Et Jeanne d'Arc appartient à une famille pieuse. Déjà, tous ses frères et sœurs portent pratiquement des noms d'apôtres et elle porte le prénom du Baptiste. On sait qu'elle a fréquenté les sacrements. Alors, elle n'a pas fréquenté les sacrements de manière extraordinaire dans son village, ça c'est vrai, mais plus tard, oui. Plus tard, elle s'est confessée énormément et elle a communié énormément. Mais justement, là, ça devient en quelque sorte une anomalie parce que la norme à l'époque médiévale, depuis 1215, c'est de se confesser et de communier une fois par an. À la rigueur, les gens les plus pieux, les femmes les plus pieuses peuvent communier lors de toutes les grandes fêtes. Mais Jeanne d'Arc, peut-être une fois par jour, peut-être plusieurs fois par jour pour la confession. Et ça, ce n'est pas normal. Je veux dire. Et les contemporains ont bien vu cela. Cela témoigne au contraire d'une exigence très particulière vis-à-vis de la foi.
Vous avez une remarque intéressante. Vous dites qu'il y a une supériorité du lien spirituel sur le lien biologique. Dans le sens où, au fond, Jeanne a une mission spirituelle, on peut utiliser le terme, et cette mission spirituelle doit prendre le dessus sur ses obligations familiales en quelque sorte.
Oui, sur ses obligations familiales. D'ailleurs, beaucoup de saints pour suivre Dieu quittent leur famille, c'est quasiment un topos très classique des vies de saints, et on va beaucoup lui reprocher dans le procès en condamnation d'avoir quitté sa famille sans même demander l'autorisation paternelle, d'autant que son père ne lui aurait sûrement pas donné. Alors elle se défend en disant plus tard j'ai demandé pardon, je l'aurais écrit. Mais en fait, qu'une fille quitte sa famille ainsi, elle n'est pas majeure du tout, pour suivre des soldats. C'était quand même un scandale considérable.
La vie, j'allais dire, normale d'une fille de son âge était de se marier vers quel âge environ ?
La vie normale d'une fille de son âge était de se marier entre 16 ans et 18 ans. Et d'ailleurs, les parents de Jeanne d'Arc ont tenté de la marier à cet âge-là, l'ont fiancée avec un garçon du même milieu dont nous ne savons pas grand-chose. Et elle a été donc fiancée. Elle n'est pas allée jusqu'au mariage parce qu'à ce moment-là, elle a dit « j'ai fait vœu de virginité ». J'ai fait vœu de virginité à 13 ans et l'évêque de Toul lui a donné raison et le projet de mariage donc est tombé à l'eau.
Oui. Il y a chez Jeanne d'Arc une simplicité de cœur et d'esprit, je reprends vos mots. C'est le propre des mystiques. Jeanne était une mystique.
C'est difficile à dire. Jeanne entend des voix. Elle voit aussi en même temps une grande clarté. Au début, elle ne donne aucune identification précise à ses voix. C'est la voix de Dieu, c'est la voix des anges. Et plus tard, en fait, ce sont les questions des juges qui vont amener à formuler Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Saint-Michel parce que c'était l'ange protecteur du royaume de Bourges et qu'il avait défendu le Mont-Saint-Michel contre les Anglais. Sainte-Catherine parce que c'était une sainte à l'épée et une sainte qui parlait bien et qui convainquait les juges et que Jeanne d'Arc, évidemment, procès de Rouen se trouvait exactement dans cette situation. Et Sainte Marguerite parce que elle échappait au dragon et donc c'était la patronne des causes désespérées, si vous voulez. On peut considérer que la situation de la France était désespérée.
Cette simplicité de cœur et d'esprit, j'y reviens, vous expliquez que ça la rend supérieure, ça rend la méditation supérieure à la culture telle qu'elle peut être développée dans les livres à cette époque. C'est assez extraordinaire ce côté.
Jeanne croit à ses voix. Ce n'est pas du tout une simulatrice, oui. Quoi que soient les voix, et qu'on peut les expliquer comme ci ou comme ça. Jeanne y croit et elle a été prête à mourir pour l'authenticité des voix. Donc, les voix existent pour elle. Et les voix lui donnent des réponses. Et les voix ne veulent pas aussi qu'on fasse de petits arrangements avec la réalité. Les voix ont un côté exigeant. Elles exigent aussi qu'on ne pêche pas ou le moins possible. Elles exigent qu'on ne pense pas trop à l'argent ou à l'ascension sociale qui pourtant, pour une jeune paysanne, est une chose dont elle rêve sûrement. Une vie de chevalier, une vie d'homme de cour et non pas torcher les enfants et remuer dans les casseroles.
Une simple peut sauver le monde, en tous les cas la France.
Une simple peut sauver le monde, oui. D'abord, tout le monde en était extrêmement persuadé. C'est une idée chrétienne absolument fondamentale, puisque Jésus, qui était fils d'un charpentier, avait sauvé le monde. Et même, si je puis dire, il n'y a qu'une simple qui puisse sauver le monde. Quand tout va mal, pensait-on, eh bien, Dieu ne peut plus faire appel aux hommes, aux puissants, aux savants, puisqu'ils ont échoué. Quand tout va mal, il n'y a comme solution que les enfants, les femmes, les simples d'esprit, les solutions les plus extraordinaires. Parce qu'aussi, c'est ces solutions les plus extraordinaires qui marque le mieux l'intervention de Dieu dans l'histoire.
Alors c'est là où intervient le personnage du prophète. Dans la société médiévale, il y a un personnage, et on l'apprend vraiment dans votre livre, ça ressort d'une manière hors du commun, on retrouve le prophète ou bien la prophétesse, et vous dites que si Jeanne a été reçue d'abord par son seigneur, puis ensuite par le roi, c'est parce qu'elle est justement prophétesse.
Au Moyen-Âge, on croit que Dieu intervient toujours dans l'histoire des hommes. Alors, il peut intervenir directement dans l'histoire des hommes. Par exemple, il donne la victoire dans une bataille. Et celui qui est victorieux, c'est celui qui a le droit pour lui. On n'imagine pas que celui qui évacue puisse savoir, puisque c'est Dieu qui décide des batailles. Mais Dieu peut aussi procéder de façon plus indirecte, ou bien lorsqu'il a un message plus compliqué à donner. Dieu peut envoyer qui il veut, car l'esprit souffle où il veut, et pour prévenir en cas de danger, pour dire ce qu'il convient de faire, pour sortir d'une situation tout à fait bloquée. Et on s'attend, si vous voulez, à ce que Dieu intervienne. Alors bien sûr, Dieu intervient moins, pense-t-on, qu'à l'époque du Christ et des apôtres, où les miracles étaient nécessaires pour convertir le monde entier à la chrétienté. Maintenant que le monde entier est converti, il y a beaucoup moins besoin de miracles. Mais il y a quand même toujours, de temps en temps, des situations désespérées qui nécessite que Dieu complète, si vous voulez, un petit peu la révélation et dise ce qu'il convient de faire.
Il y avait beaucoup de prophètes ?
Il y a eu beaucoup de prophètes. À partir des années 1350, le prophétisme devient un prophétisme politique. Et ça va durer en gros pendant un siècle, de 1350 à 1450, qui sont les siècles qui correspondent évidemment à une crise économique d'un côté, aux pestes de l'autre, et puis aussi aux schismes dans l'Église, plusieurs papes, et au schisme dans l'État, le royaume de Bourges d'un côté, le royaume anglo-bourguignon de l'autre et la Normandie anglaise. Donc cette situation de difficulté suscite les prophéties, parce que la prophétie évolue au rythme de la crise. Lorsque, en 1450, tout à nouveau marche bien, le pape est revenu sur son trône et Charles VII a reconquis Guyenne et Normandie, il n'y a brutalement plus de prophètes. C'est un management de l'exceptionnel, si vous voulez.
Comment pouvait-on reconnaître le vrai prophète du faux prophète ?
C'est une question que les universitaires parisiens se sont énormément posée et ils ont établi des règles. En particulier, Gerson et Pierre Dailly sont l'auteur de traités de théologie pour expliquer comment on reconnaît un vrai d'un faux prophète. Alors, un vrai prophète, d'abord, c'est un prophète qui a de bonnes mœurs. Dieu ne choisit pas des envoyés qui ne seraient pas présentables, si vous voulez. Donc, un vrai prophète est vierge, ou en tout cas se conduit bien. Un vrai prophète est pieux. Un vrai prophète n'a pas l'habitude de mentir. Et un vrai prophète prophétise gratuit. Je veux dire, il n'envisage pas de gagner quelque chose avec sa prophétie.
Il n'est pas vénal.
Voilà, il n'est pas vénal. Ensuite, un vrai prophète est annoncé. Un vrai prophète a été annoncé par des textes. Alors, tout le monde n'a pas la chance d'être annoncé par la Bible, évidemment, comme le Christ, par exemple, l'avait été. Mais Jeanne d'Arc a été annoncée, pensa-t-on, par Merlin, par le texte de Déborah et par toute une série aussi de prophéties dont certaines étaient fabriquées pour la circonstance, mais dont d'autres circulaient déjà depuis 20 ou 40 ans. Donc, il faut être annoncé par des textes. Et puis, il faut aussi avoir un signe que l'on dit vrai. Alors, les signes peuvent être très variables. Certains prophètes ont des signes sur le corps. Ils ont, par exemple, des croix sur l'épaule gauche à cause de l'évangile de Noël. Il portera sa croix sur l'épaule gauche. C'est le bon endroit pour le bon signe. Mais d'autres prophètes aussi ont des signes à réaliser dans le futur. C'était le cas du Christ qui avait dit aux pharisiens « Je ressusciterai ». Signe invérifiable, enfin, tant qu'il n'était pas mort. Et Jeanne d'Arc dit de même « Je libérerai Orléans ». C'est donc un signe qui appartient au futur et qui suppose qu'on va lui faire confiance.
Alors, il y a malgré tout une enquête sur Jeanne. Comment se déroule cette enquête ?
On suit les enquêtes pour exactement dans les mêmes procédures pour toutes les autres prophétesses comme Marie Robine ou d'autres qui sont apparues avant Jeanne d'Arc. Donc, une période d'observation des mœurs qui dure à peu près 3 semaines, à la suite de quoi elle semble honnête et pieuse. Une période ensuite de 3 semaines où on est interrogé par les juges et par des théologiens et par des conseillers du roi pour être sûr que les voix sont bien authentiques, pour être sûr aussi que Jeanne ne change pas d'avis et donc un effort, si vous voulez, pour cerner le phénomène des voix. À la suite de quoi les théologiens de Poitiers donnent un avis assez réservé. Eh bien, peut-être que oui, peut-être Dieu se décide-t-il pour nous à faire un miracle, mais en fait, nous n'en sommes pas sûrs. Ça vaut le coup de tenter. Si elle libère Orléans, ça sera vrai. Et donc, si vous voulez, Charles VII joue sa légitimité en partie là-dessus, et Jeanne d'Arc joue la réussite future de sa mission. Est-ce qu'Orléans sera libéré ou pas ? C'est le signe.
Alors, lors de cette enquête, les enquêteurs ont dû s'apercevoir qu'elles n'étaient pas bergères. Pourtant, j'allais dire, ça les arrange de dire qu'elle était bergère ou qu'elle est en tous les cas bergère. Quel est le sens du pasteur, du berger à l'époque médiévale ? Parce que ça a tout un sens, là encore, religieux. Ce n'est pas innocent que l'on veuille en faire une bergère.
Jeanne d'Arc n'était pas bergère, elle l'a dit à plusieurs reprises. Elle dit bien sûr, j'ai gardé le troupeau du village une ou deux fois dans l'année quand le tour de ma famille venait, c'est un troupeau collectif. Mais à part ça, je ne suis absolument pas bergère. Mais il fallait qu'elle soit bergère. D'abord parce que les prophètes de l'Ancien Testament étaient presque tous des bergers que Dieu était allé chercher derrière leur troupeau. Ensuite, le rôle du prophète est très semblable à celui du berger. C'est celui qui conduit le troupeau et qui le protège contre les loups anglais, ravisseurs et méchants. Et puis, ensuite, les bergers, pensait-on, c'était ceux qui avaient su les premiers lors du soir de Noël la bonne nouvelle. Et donc, on pensait que à la fin des temps, c'est pareil, ils seraient les premiers. Quelles seraient les interventions de Dieu ? Dans les mystères, par exemple, au théâtre, on voyait les bergers entendre les anges annoncer. Et donc, les bergers étaient par essence les messagers de Dieu. Mais l'inconvénient pour Jeanne d'Arc d'être une bergère, c'est que ça colle très bien pour le début de sa mission, conduire le peuple jusqu'à Orléans et au salut. Mais ensuite, on voit pas très bien comment le berger peut coller avec l'image d'un guerrier.
Est-ce qu'elle va être comparée, vous, un moment vous la mettez en parallèle avec Saint Jean-Baptiste qui était berger, est-ce qu'elle va être comparée de son vivant à des grands saints ou à des personnages de l'Ancien ou du Nouveau Testament ?
C'est assez difficile de la comparer à des saints, sauf Sainte Catherine. parfois utilisé dans la mesure où Jeanne est une fille à l'épée et parle devant les docteurs. On n'a pratiquement aucune autre comparaison à des saints ou à des saintes. Mais on a des comparaisons à l'Ancien Testament qui sont nombreuses. On a des comparaisons, évidemment, surtout à Judith, Esther et Déborah, le trio des saintes femmes qui ont sauvé le peuple d'Israël. Parce que Judith a sauvé Béthulie, ville assiégée et affamée, comme Jeanne d'Arc sauvera Orléans, ville où les gens avaient faim et désespéraient. Ensuite, Déborah a annoncé la victoire et elle a porté l'épée, comme Jeanne d'Arc à Patay ou à Jargeau, si vous voulez. Esther, beaucoup moins. Esther, d'ailleurs, est moins fréquent comme comparaison. C'est une femme mariée et donc ça convient moins bien. C'est à peu près tout. On pouvait comparer Jeanne d'Arc aussi à des héroïnes romaines, Camille, Clélie, qui ont sauvé Rome, mais on l'a fait de façon beaucoup moins fréquente. De toute façon, pour les théologiens, les bons exemples sortaient de la Bible. Donc c'était Déborah ou Judith.
Est-ce qu'elle était comparée aux romans, enfin aux héroïnes, aux guerrières de romans médiévaux?
Les guerrières déguisées existent dans beaucoup de romans médiévaux, en particulier il y en a une assez connue qui s'appelle La Pucelle Cœur d'Acier, qui évidemment a inspiré Jeanne d'Arc et de la fin du XIVe siècle. Mais ces héroïnes de romans, d'abord...
Vous les appelez les héroïnes de papier.
Oui, sont des héroïnes qui prennent le rôle d'un homme durant une période extrêmement courte et toujours parce qu'elles y sont forcées par la nécessité. Elles n'ont plus de père, elles n'ont plus de frère, il faut bien qu'elles fassent face et qu'elles s'efforcent de sauver leur fief ou d'aider un tel ou un tel. Et puis ensuite, ces héroïnes, elles opèrent tout le passage inverse que Jeanne d'Arc n'a pas su négocier. C'est-à-dire qu'elles redeviennent femmes, elles se marient en général au-dessus de leurs conditions et ce sont après des femmes comme les autres.
Alors Jeanne, nous venons de le dire, était parfois comparée à tel ou tel personnage et notamment, vous le dites dans votre livre, en tous les cas vous essayez de faire un parallèle entre la Vierge Marie et Jeanne d'Arc.
Oui, d'abord parce qu'elle porte des noms qui sont quasiment identiques. La Pucelle, c'est la Vierge, c'est exactement le même nom. Et ensuite, parce que Jeanne d'Arc avait une dévotion qui est connue pour Notre-Dame, à laquelle elle portait des cierges depuis sa prime jeunesse. Et elle a, comme la Vierge Marie, fait vœu de virginité à 14 ans. Elle portait une annonciation sur l'un de ses drapeaux. Mais donc il y a une espèce de parallèle. Néanmoins, la Vierge Marie sauve le monde en faisant naître le Christ, mais d'une façon un petit peu, si vous voulez, passive. Jeanne d'Arc, elle veut agir sur le monde, elle directement, pas ses enfants futurs très éventuels. Elle les évoque aussi à un moment en parlant avec Baudricourt. Elle dit, eh bien, un jour, quand ma mission sera passée, peut-être aurai-je 3 enfants. Il y aura un roi, il y aura un pape, et un roi de France, il y aura un pape, et puis il y aura un empereur. Tout ce qu'il faut pour créer une chrétienté réformée, en quelque sorte. Mais c'est une idée tout à fait à long terme.
Alors, j'ouvre une parenthèse. Nous sortons cette fois peut-être du spirituel et par rapport, nous revenons aux idées politiques. Vous parlez d'un empire, c'est-à-dire que le rôle, en tous les cas, la pensée de Jeanne d'Arc ne s'arrête pas à la France. Elle va bien au-delà. Elle va jusqu'à la chrétienté et jusqu'au retour de l'idée de croisade.
Oui, Jeanne d'Arc voulait bouter les Anglais hors de France, ça c'est certain, et c'était la première partie de sa mission. Mais sa mission ne s'achevait pas du tout là, puisqu'elle avait aussi l'intention de mener une réforme spirituelle dans toute la chrétienté, c'est-à-dire de ramener, de chasser l'adultère, y compris l'adultère masculin, ce qui à cette époque était plutôt original, de chasser en même temps le blasphème, de ramener les pauvres, de donner aux pauvres une place plus digne, plus conforme au fait que le Christ lui-même avait été un pauvre. Il y a donc un côté utopiste, un côté amélioration, si vous voulez, de la société chez Jeanne d'Arc, dont le but est bien sûr de chasser le péché, mais qui en même temps réorganise le monde. C'est une époque qui rêve de réforme, à la fois politique et religieuse, les deux étant pratiquement impossibles à séparer.
Alors nous fermons la parenthèse, nous revenons au personnage même de Jeanne. Vous expliquez que le camp de Charles VII va être doublement embêté parce que Jeanne s'habille comme un homme et oui, parce qu'elle commandera des hommes. C'est une aberration de commander des hommes ?
C'est une aberration, oui. L'un des côtés de Jeanne d'Arc, l'un de ses côtés actuels, justement, c'est de poser le problème de la place des femmes dans le domaine du pouvoir et dans le domaine militaire. Tout domaine, évidemment, qui, à son époque, était plutôt très logiquement réservé aux hommes, à la fois dans les réalités et puis aussi dans les esprits. Chez les théologiens, il y avait des hommes et des femmes. Les hommes étaient promis à l'extérieur, au public, aux charges de responsabilité, et les femmes étaient promises à l'intérieur, aux enfants et au pouvoir domestique, à certains types de pouvoir peut-être, mais à pouvoir domestique et privé. Mmh. Et donc, le fait que Jeanne d'Arc, d'abord, ait pris des habits d'homme, a beaucoup choqué. D'abord parce que c'est interdit par le Deutéronome. L'homme, quiconque prend l'habit d'un sexe qui n'est pas le sien, dit le Deutéronome, est abominable à Dieu.
Le Deutéronome
donc, qui... se trouve... Mmh. Dans l'Ancien Testament, se trouve donc considéré comme hérétique. La condamnation de Jeanne porte en partie sur ce problème. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons, évidemment, on pense que si on est habillé en homme, on a plus de possibilités de tromper, de mal se conduire. On pense que l'on va tenter autrui, même si Jeanne dit « je suis restée vierge et capable de le prouver ». Peut-être a-t-elle tenté les hommes qui étaient autour d'elle. Et puis enfin, c'est un très mauvais exemple pour les autres filles. Si tout le monde allait s'habiller en homme, ouvrirait le monde. Mmh. C'est franchement penser comme un monde à l'envers. Mmh. Alors, il y a quand même une possibilité de rester habillé en homme, c'est si on peut plaider le cas de nécessité. C'est une invention de Thomas d'Aquin. Par nécessité, le pauvre peut voler sa nourriture, la femme peut s'habiller en homme, mais la nécessité est temporaire, oui. Derrière.
Oui. Aucune législation, vous le dites, je vous cite, aucune législation précise n'interdit aux femmes la guerre ou le port d'armes. C'est ce qui permet à Jeanne d'avancer ?
Il n'y a pas de législation précise, mais il n'y a pas de législation précise qui l'autorise non plus. Autrement dit, on se trouve dans un domaine un peu bizarre, un entre-deux, où l'on admet que les femmes, par exemple, participent éventuellement aux croisades, parce qu'aux yeux de Dieu, dans ce cas, les deux sexes sont égaux, et qu'elles puissent éventuellement défendre leur ville assiégée, dans la mesure où les murs d'une ville assiégée sont la prolongation des murs du foyer. Et puis, lors d'un siège, les femmes peuvent apporter la nourriture et soigner les blessés. Il y a toutes sortes de choses à faire dans les guerres.
Ce sont les deux cas de guerre accessibles donc pour les femmes. Alors, comment s'imposer face aux hommes ? Car, et vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, vous le répétez à plusieurs reprises dans votre livre, Jeanne dénonce implicitement l'incapacité des hommes.
Mais explicitement, non. Elle dénonce implicitement l'incapacité des hommes et dans un premier temps, elle n'a pas toujours eu beaucoup de facilité. Dans un premier temps, elle n'a pas été convoquée au Conseil de guerre. On s'abstenait de le lui faire savoir, d'autant que l'on pensait que son opinion n'était pas une opinion de quelqu'un d'expérimenté. C'était parfaitement vrai au début. Et puis, on pensait aussi que sa stratégie « allons-y tout droit le plus vite possible » avait ses bons côtés, mais aussi ses limites. Et donc, elle a eu une certaine peine à s'imposer. Mais en fait, ce sont ses victoires qui l'ont imposé. Et puis, très vite, les gens ont pensé au miracle. Que lorsqu'elle était là, plus personne ne mourait dans l'armée du roi, ou très peu de personnes. Que lorsqu'elle était là, le vent à Orléans, par exemple, tournait pour que les bateaux chargés de vivres puissent entrer dans la ville. Et donc, quelqu'un qui fait des miracles, ça n'appartient plus exactement au sexe féminin.
Alors malheureusement, Colette Beaune, le temps passe. Il y aurait bien d'autres sujets à aborder sur Jeanne. Peut-être deux dernières questions. Peut-on comparer Jeanne au sauveur de la France, au personnage suprême, à savoir le Christ lui-même, sauveur du monde ?
C'est une chose que l'on a faite à partir du moment où Jeanne s'est retrouvée en prison, puis condamnée et puis a été brûlée à Rouen. À ce moment-là, les images traditionnelles et victorieuses de la prophétesse Déborah ou d'autres n'étaient plus de mise. Et l'image souffrante qui est la plus familière à tous les chrétiens de l'époque, c'est évidemment l'image du Christ, dans la mesure où le bon chrétien est supposé imiter le Christ et chercher à le reproduire vraiment de près. Et ça n'a pas, c'est pas si étonnant que ça de voir quelqu'un dire, eh bien, moi, j'imite le Christ. Je suis comme lui un martyr mal jugé qui va mourir de façon injuste. Et peut-être un jour je reviendrai parce qu'il faut pas oublier qu'on a cru que Jeanne allait revenir.
Mais alors pourquoi autant de temps entre sa mort sur le bûcher et sa canonisation qui, je le rappelle, date de 1920, si mes souvenirs sont bons.
Oui, la canonisation de Jeanne est un fruit de la guerre de 14 et de la réconciliation entre la République et l'Église après la querelle de la laïcité. Parce que de son temps, on ne pensait pas du tout, enfin les spécialistes, les théologiens, ne pensaient pas du tout que Jeanne était sainte. Il y a deux conceptions possibles de la sainteté. La sainteté, c'était au Moyen-Âge le miracle. Et pour ça, on pouvait penser que Jeanne, à la rigueur, avait fait des miracles, oui. Mais c'était devenu, à partir du XIIIe, l'exemplarité des vertus. Et ça, on ne pouvait pas donner Jeanne en exemple à toutes les jeunes filles de France. Bien évidemment, Jeanne n'était pas un modèle. Ça a toujours été une exception. Et ça n'a jamais été pensé que comme une exception.
Eh bien, Colette Beaune, je vous remercie. Merci et à bientôt.
Vous écoutez Canal Académie.